Bonsoir tout le monde. Je vais faire un petit cours sur le Harizal, puisque ce soir c'est l'Aïloula du Harizal. Donc avant que ça ne commence, je vais partager ce cours sur plusieurs pages. Un instant s'il vous plaît. On va commencer dans 3-4 minutes. Juste laissez-moi partager sur les différents éléments et les groupes dont je m'occupe. Ça ne va pas durer longtemps maintenant. C'est toujours un peu fastidieux le départ. Des gens qui s'évertuent à m'inviter à aller voir des cours en vidéo, en direct, ils s'évertuent pour rien. Voilà, et encore un groupe, ça fera trois groupes, ça suffira pour ce soir. Donc j'ai pas eu le temps malheureusement de préparer comme je l'aurais voulu, parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de boulot. Mais on va essayer de faire quelque chose qui tient la route. Voilà. Nous avons ce soir la Hiloula de Rabbeinu Aharizal, Ari HaKadosh, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Et qui était le Aharizal? Le Aharizal. On voit je me base sur plusieurs livres qui sont devant moi. Il s'appelait Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Sa maman était d'origine égyptienne et son papa était Ashkenaz, de la famille Luria, comme de la même famille que le Maharshal. Et donc lui s'appelle Rabbi Yitzhak Ben Shlomo Luria. Et il était petit, quand il était enfant, il a perdu son père. Et donc sa mère, qui était d'origine sfaradite, l'a pris avec elle et l'a amené en Égypte et voir donc chez son frère à elle, qui s'appelle Rabbi Mordechai Frances. Voilà, ils mettent Francine, mais je pense que c'est Frances. Qui habitait donc en Égypte, et il avait à l'âge de 15 ans, pardon, il s'est marié avec la fille de son oncle à l'âge de 15 ans. Qui étaient ces rabbanim? Donc son rave en Kabbalah, c'était un Mekoubal qui s'appelait Rabbi Klouminous. Je ne connais pas, mais Rabbi Klouminous. Et son rave dans le pshat, c'est-à-dire dans la partie dévoilée de la Torah, la partie qu'on étudie habituellement, c'était le Radbaz, c'est le dernier Rishon, un des exilés d'Espagne, qui s'appelle Rabbi David Ben Zimra, qui était donc son rave. Et également, il a étudié avec Rabbi Bezalel Ashkenazi. Rabbi Bezalel Ashkenazi a écrit un grand livre qui est utilisé dans toutes les yeshivot. Quand on étudie le Talmud, la Gemara, qui s'appelle Shitta Mekoubetset. Donc la Shitta Mekoubetset, et c'est donc un très très grand livre. Donc il a étudié avec ce Rav, qui était également un exilé d'Espagne, je crois. Et on dit que certains des Pirushim sur certains traités de Talmud ont été écrits par le Harizal. Et il est considéré comme un des grands dans la Torah, en Eretz Israël, pas simplement dans la Kabbalah, dans laquelle il a excellé, mais également dans tout ce qui concerne le Talmud, le Midrash, la Torah, tout ce qui concerne le Niglé, la partie la plus dévoilée de la Torah. Il est né à Yerushalayim en 5294, c'est-à-dire en 1534. En 1534. Et il est mort à Safed, à Sfat, un jeudi, le 5 av de l'année Shin Lamed Bet, 5332. Donc il avait, à ce moment-là, il avait 38 ans. Donc en fait, vous voyez que le Harizal, il n'a vécu que 38 ans. Et pour ceux qui ont déjà vu les livres du Harizal, il faut savoir que l'enseignement qu'il a donné au Rabbi Haïm Vital, qui est son plus grand élève, c'est une durée de 18 à 20 mois, pas plus. Donc en fait, je vous amènerai tout à l'heure un livre, malheureusement je n'ai pas amené ici, mais je vous abandonnerai 30 secondes pour aller chercher des livres. Donc c'est des dizaines de livres qui ont été écrits par Rabbi Haïm Vital en plusieurs étapes, et tout ce qu'il a appris, il l'a appris en 18 mois, 20 mois peut-être. Son rave, celui qu'il appelle son rave dans la Kabbalah, c'est le Rabak, Rabbi Moshe Cordovero, qui était, il appelle son rave, ça veut dire que simplement ils étaient contemporains, et quand le Harizal a quitté l'Égypte, on verra tout à l'heure comment, il est arrivé à habiter à Safed, et il n'a pas voulu se dévoiler, parce que il ne voulait pas faire d'ombre à Rabbi Moshe Cordovero. Donc il ne s'est pas dévoilé. Et qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il étudiait en petit comité. Et il a attendu que le Ramak meure pour se dévoiler. Et avant que le Ramak ne meure, il allait étudier chez le Ramak. Le Ramak, c'est le dépositaire de toute la Kabbalah, de toute la Kabbale d'avant le Harizal, qui en a, sur toutes ces générations qui ont duré depuis les Géonim, c'est-à-dire les Rachei Yeshiva de Babel, dont on a certains écrits kabbalistiques, et jusqu'à l'expulsion des Juifs d'Espagne, et un petit peu après, il a compilé tout ça dans plusieurs livres, donc un livre qui s'appelle le Pardes Rimonim, et un autre livre qui s'appelle Sefer Elima Rabati. Donc, le Harizal était un élève, quand il était à Tzfat, en attendant de se dévoiler, il a été un élève du Ramak. Quand le Ramak était malade, ses élèves lui ont dit « Mais avec qui on va étudier maintenant que tu vas mourir, maître ?» Ils lui ont dit, il leur a répondu « Celui qui, dans mon enterrement, verra une colonne de feu, de fumée, sur mon cercueil, sur le convoi funéraire, donc c'est lui qui saura. » Et au moment de l'accompagnement de la dépouille du Ramak, eh bien, personne n'a vu cette nuée. Et qui l'a vu, c'est donc le Harizal et un enfant. On ne sait pas qui était cet enfant, mais un enfant. Je vais recommencer son histoire au tout début. En fait, il y avait un monsieur qui s'appelait Shelomo, qui était le père du Harizal. Et cet homme-là, il était droit. Il était droit, il craignait le ciel, et il s'éloignait de tout ce qui était mal. Et cet homme, il n'avait pas d'enfant, il priait à la synagogue, il demandait, il était là pour demander, il était tout seul à la synagogue, il priait du fond de son cœur. Un homme et monsieur est venu le voir, et qui était cet homme? C'était le prophète Eliyahu Hanavi, le prophète Élie. Et il lui a dit, sache qu'Akadosh Baruch Hu m'envoie pour t'annoncer que ta femme va être enceinte et que tu vas mettre au monde un enfant qui va s'appeler Yitzhak. Et ce Yitzhak, il va commencer à sauver l'ensemble des âmes des enfants d'Israël qui sont dans les clipotes, dans les impuretés. Parce que les âmes, il faut savoir que les âmes, elles sont partout. Elles peuvent être dans le Gan Eden, Gan Eden Elyon, Gan Eden Tarton, donc Gan Eden, le jardin d'Éden, donc le paradis, si vous voulez, je ne sais pas trop ces mots-là, mais le Gan Eden en hébreu. Et d'autres ne sont pas dans le Gan Eden. Alors on passe dans le Guéhinam, on va pour purifier, on peut revenir sur terre en Gilgoul. Il y a plusieurs natures de Gilgoul, ça peut être dans le domaine, les pierres, l'inerte, sommaire, tout ce qui, toutes les plantes ou l'eau. Le pire, paraît-il, c'est l'eau. Et hay, dans les animaux, par exemple, quand on fait la shrita, là, tous ceux qui veulent nous interdire de faire la shrita, c'est des débiles. Parce que nous, quand on fait la shrita à un animal, il se peut qu'il y ait une âme qui est en cours de rédemption, qui est dans cet animal. Et du fait qu'on fasse la shrita à cet animal, on a sauvé cette âme et on l'a fait revenir donc, dans le Gan Eden. Donc, eux, ils croient qu'on fait ça pour manger. Oui, on mange. Mais c'est pas manger seulement. C'est, l'essentiel, c'est de sortir ces âmes et de leur amener la rédemption. Et on peut également, les âmes des juifs qui ont fauté ou qui n'ont pas fait attention au judaïsme, ou pour certaines raisons, on peut se retrouver dans le corps d'un non-juif, de telle sorte que quand ils sont dans le corps d'un non-juif, ils vont subir beaucoup de choses. Ce n'est pas sympa pour une âme juive d'être dans un corps qui n'est pas un corps juif, entre guillemets. Et donc, ils vont avoir un passage qui va durer plusieurs années pour devenir juif. C'est leur tikkun, et après, une fois qu'il y a ça, ben l'âme, elle a acquis sa rédemption. Petit mot là au passage, on voit bien ça dans tous les kitvets du Harizal qui sont bien ramenés ensuite dans tous les livres du Ramhal. C'est une petite aparté. Et donc, en fait, on dit que Dieu est bon, ce qui ne veut pas dire grand-chose. En fait, Dieu est bon, mais d'une bonté absolue. Ça veut dire quoi? D'abord, on ne peut pas réduire le Créateur à une qualité. Donc, on va parler non pas de Dieu en tant que tel, mais des midot, de ce qu'il a voulu démontrer quand il a créé ce monde, ce qu'il a voulu avoir comme qualité vis-à-vis de ce monde. Il aurait pu avoir d'autres. Donc, si je parle de Dieu avec des qualités elles-mêmes, du Créateur, je le limite. Donc, je ne parle jamais du Créateur. Par contre, je parle de la manière dont il a créé le monde et de ce qu'il a choisi pour créer. Ça, ce qu'il a choisi, c'est lui qui l'a choisi. Donc ça ne le limite pas. C'est comme si moi, Kaviachol, j'ai un carquois avec 50 flèches, j'ai choisi les vertes et pas les bleus. D'accord, j'ai le droit de choisir les vertes et pas les bleus. Donc Kadosh Baruch Hu, évidemment, c'est rien à voir avec moi ni avec un carquois, mais c'est de l'infini, mais il a choisi d'avoir un monde fini dans lequel il va prodiguer un bien, et il l'a choisi comme ça, il aurait pu faire autrement. Mais ce bien, c'est un bien véritable qu'il a donné. C'est-à-dire, moi, si je fais le marathon de Paris, et je le fais en 5 heures, et que je suis premier, ou je ne sais pas combien de temps il faut mettre, mais disons 10 heures et je suis premier, on ne va certainement pas me considérer comme le génie du marathon. Par contre, si je fais marathon, je m'accroche, je cours, je marche, je me défonce, et à la fin, même si j'arrive 10e et j'ai explosé mon record, eh bien à ce moment-là, j'ai un vrai gain, j'ai une vraie joie. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde comme ça, où il donne la récompense en fonction de l'effort, en fonction de ce qu'on a fait, pour que la récompense soit une vraie récompense et pas une fausse récompense. Donc, on revient au Harizal, le Ari Akadosh, son père, Rabbi Shlomo, le Eliyahu Hanavi, vient lui dire que l'année suivante, il allait avoir cet enfant, et que lui allait venir à la Mila, et il allait être son Sandiko. Sandiko, c'est son parrain, entre guillemets, en hébreu, on appelle ça Sandak, celui qui porte le bébé, pendant la circoncision, pendant la Mila, mais le Sandikro, c'est un mot qui a été espagnolisé, puisqu'à l'époque, en Eretz Israël, la majorité des gens étaient des mégourachés séfarades, des gens qui venaient d'Espagne ou du Portugal, et qui parlaient espagnol. Donc, il lui a dit, je serai le Sandak de ton bébé. Effectivement, un an après, sa femme a accouché, et c'était le matin, il fallait faire la Mila, et à ce moment-là, Eliyahu Hanavi n'est pas arrivé. Il était en retard, il ne voulait pas venir, il était retenu à l'ONU, je ne sais pas, mais il n'était pas là. Et donc, les gens dans la synagogue, ils disent, attends, on a d'autres business à faire, on doit faire les courses, on doit aller à la banque, on doit faire nos affaires. Et lui, il voulait attendre Eliyahu Hanavi. Et toute la communauté le pressait, lui donnait du stress pour faire cette circoncision, cette Mila. Il a tenu bon, Eliyahu Hanavi est arrivé, il n'y a que lui qui le voyait. Eliyahu Hanavi s'est assis, il a pris le bébé, il le tenait, personne ne comprenait tout à fait exactement ce qui se passait. Et le père a attrapé le bébé, ils lui ont fait la Mila, en présence d'Eliyahu Hanavi, et Eliyahu Hanavi lui a dit, tu vas voir, cet enfant sera un très grand en Israël, ce qui a été le cas. Que s'est-il passé ensuite? Donc, il est parti en Égypte, et après s'être installé en Égypte, il s'est marié, il s'est passé 2 ans après, il y a un marchand qui est arrivé en Égypte. Et ce marchand, c'était un des anciens personnes qui avait été converti de force, en Portugal probablement. Et cette personne-là, elle avait un livre, un beau livre, peut-être pas beau dans l'extérieur, mais dans son contenu, qui contenait plein de secrets de Torah. Et donc le Arizal lui a dit, écoute, c'est quoi ce livre? Je te l'achète très bien. L'autre lui a dit, écoute, moi je sais pas lire, je connais rien, je suis arrivé du Portugal, je connaissais rien. Et donc, quand je suis à la synagogue, j'ai peur, j'ai honte parce que je sais pas lire et les gens ils vont se moquer de moi. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends ce livre, je vais devant et je fais semblant. Il a dit, écoute, moi ce livre-là, c'est pas un livre de prière, moi je te l'achète, combien tu veux? Tu lui dis, écoute, moi je suis riche, j'ai besoin de rien du tout, mais tu vas me faire une tova. Ton beau-père, il est en charge des impôts du royaume d'Égypte. Et en conséquence, tu vas intervenir pour moi et je vais plus payer d'impôts. Donc, ils ont fait l'affaire, il a pris ce livre. Et ce livre, c'était le livre du Zohar, le Zohar à Kadosh. Et il s'est isolé pendant 6 ans, toutes les semaines. Il s'est isolé au bord du Nil. Il te beau des doutes, comme disait, mais c'est lui qui a commencé, probablement d'autres avant. C'est pas récent dans les Hassidim, c'est juste ils ont hérité de choses qui existaient avant, et en particulier du Arizal. Oui, j'ai une mode en ce moment sur le Hassidisme, mais sachez que tout vient du Arizal et de la manière dont les Séfaradim ont appris du Arizal. Après, ils ont hérité des choses, mais il ne faut pas inverser les valeurs. Donc, il a pris ce livre pendant 6 ans, il l'a appris, il rentrait chez lui que Shabbat, il ne parlait pas, à sa femme, il ne parlait pas, et quand il parlait, si jamais il avait besoin de parler, il parlait en hébreu, en la Shona Kodesh, comme ça, au moins, il ne quittait pas. Donc, grâce à ça, il a appris une certaine doucha, et il faut savoir qu'à ce moment-là, il étudiait le Zohar Kadosh, comme on étudie la Gemara, hein, pas un livre d'histoire, comme on étudie la Gemara, et quand il étudiait donc le Zohar Kadosh, comme la Gemara, il étudiait, il essayait de comprendre, et on lui expliquait du ciel, « Non, il faut que tu continues. Si tu n'as pas bien compris, tu n'as pas suffisamment compris, continue. » À certains moments, on lui disait qu'il avait compris comme l'avait expliqué exactement Rabbi Shimon Bar Yochai. À d'autres moments, on lui disait « Non, continue, il faut continuer à approfondir. » Donc, le Hari HaKadosh, comme ça, il a acquis une grande Kedusha, et de ce fait, il a pu acquérir le maximum qu'on pouvait acquérir quand il était en Égypte. Et il a atteint le roi HaKodesh, l'Esprit Saint en français, je ne sais pas comment on dirait. Je vais sauter pour ceux qui, je vois qu'il y a Jonathan. Donc, il y a une partie de ce que je dis, là, qui vient de ce livre qui s'appelle, donc, Siyah Tzhak. Et une autre partie de celui qui vient de ce livre qui s'appelle, je vais mettre devant le truc, qui s'appelle Shifhei Ari. Juste un instant, je vais me faire tomber quelque chose. Voilà. Donc, quand Rabbi, le Arizal, on lui a demandé ensuite d'aller habiter à Safed. Pourquoi d'aller habiter à Safed? Parce que à Safed, c'est là-bas qu'il y avait la grande concentration des rabbinim. Et tout l'objectif de sa venue à Safed, c'était que lui soit dévoilé encore plus de sodot de la Torah, qu'il n'avait pas connu en Égypte, qu'il a appris après, par Elio et Navizachor et Tov. Et tout l'objectif de tout ça, c'était d'enseigner à Rabbi Haïm Vital. On dit que le Arizal avait la capacité d'être Mashiach ben Yosef, et Rabbi Haïm Vital, le Ari est venu à Tzfat pour mettre Metaken, pour réparer, entre guillemets, arranger Rabbi Haïm Vital pour qu'il soit Mashiach ben David. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Il faut savoir aussi qu'il y a eu des bagarres entre les Talmidim, des disputes. Et de ce fait, le Hari est mort plus tôt que prévu. Et le moment qui était propice à l'arrivée de Mashiach n'est pas arrivé. Que peut-on dire rapidement du Harizal? Alors, je vais vous raconter une histoire. Tiens, ça en dit long. Le Harizal, il était à la synagogue en train de prier. Et dans la synagogue, il y avait qui? Rabbi, il y avait Maran. Maran, c'est Rabbi Yosef Karo, le rav de tous les juifs. C'est lui qui a écrit le Shulchan Aruch, qui est reconnu par l'ensemble des juifs du monde entier, sachant que pour les Ashkenazim, ils prennent d'abord les annotations du Shulchan Aruch, et les Sephardim, ils prennent le Shulchan Aruch. Généralement, c'est un klal que je donne là, une généralité, et toute généralité étant fausse par définition. Donc, il priait dans la synagogue, et Rabbi Yosef Karo, qui était un tzaddik énorme, qui a écrit des livres magnifiques, le Bet Yosef, le Shulchan Aruch, eh bien, Rabbi Yosef Karo, il s'est allongé dans sa prière. Il s'est allongé, il n'avait pas l'habitude de s'allonger autant. Alors, le chamash de la synagogue demande, qu'est-ce que je fais? Est-ce que les gens, ils ont autre chose à faire? Ils doivent vaquer à leurs occupations, c'est Torah Tzibur. On n'a pas le droit de faire Torah Tzibur. Donc, ils sont tournés vers le Harizal, il leur a dit, allez lui glisser à l'oreille que le problème qui le préoccupe trouve sa réponse dans tel livre, à telle page, à tel endroit. Donc, le chamash va glisser ça à l'oreille de Maran, Rabbi Yosef Karo, et Maran, il termine vite sa tefila, sa amida, et il va le voir, mais comment, voilà, donc, c'est quoi, comment tu sais? Il y a le roi HaKodesh qui existe encore de nos jours. C'est une histoire qui est totalement, qui démontre bien ce que c'est que le Harizal. Le Harizal, il avait roi HaKodesh, c'est-à-dire il savait les choses. Quand quelqu'un venait le voir sur son front, sur son visage, il savait quelle faute il avait faite, il savait d'où il venait, quel Gilgul il était, de quelle vie antérieure il venait, il savait quel était le shoresh de sa neshama, de quel endroit elle venait. Donc on a tous les neshamot des juifs, elles viennent du corps de Adam Harishon, même d'autres, hein, pas que les juifs, du corps de Adam Harishon, il savait à quel endroit ça venait du corps de Adam Harishon, ces neshamot-là, de quel endroit elles venaient. Elles avaient été créées, non pas dans le Adam Harishon, mais ce qu'on appelle Adam, ce qui est un élément kabbalistique qu'on appelle Zahir Anpin, qui est à quel endroit de Zahir Anpin vient la neshama de chacun, parce qu'elle est plutôt d'Amalchut, comme la majorité des gens, ou bien le Yesod, comme les Tzadikim, ou bien de plus haut. Donc lui, l'Arizal, il savait tout ça. Il étudiait la nuit, et la nuit, quand il dormait, on lui demandait, là-haut, on lui dit, qu'est-ce que tu veux étudier? Dans quelle yeshiva tu veux aller? Des fois, il allait à l'yeshiva de Rabbi Shimon ben Yochai, des fois, il allait à l'yeshiva de Rabbi Meir, de Rabbi Akiva, etc. Donc, c'est comme ça qu'il a appris tout ce qu'il connaissait. Et donc, en fait, quand il avait une difficulté sur le Zohar HaKadosh, il allait demander à Rabbi Shimon ben Yochai qu'est-ce qu'il en avait fait. Un jour, une histoire encore, faire deux, trois autres histoires avant de terminer, et vous montrer un peu qu'est-ce que ça a donné ensuite la Kabbalah du Harizal. Un jour, le Harizal était dans un Bet Midrash, dans une yeshiva, il y avait un monsieur qui s'appelait Yoshua Binoun. Vous voyez, Yoshua Binoun comme l'élève de Moshe Rabbeinu. Il s'appelait Yoshua Binoun, Rabbi Yoshua Binoun, et Rabbi Yoshua Binoun, il y avait un enfant qui était malade, il était un peu maladif, donc il devait prendre des médicaments toute sa vie. Et le Harizal lui dit, tu perds ton temps, tu perds ton argent à soigner ton fils. Pourquoi? Parce que ton fils, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une mauvaise âme qui l'a habité. Cette mauvaise âme l'a habité. Et il le torture. Alors, le Harizal est allé vers l'enfant, qui avait 18 ans, l'enfant. Il lui parle et il le regarde et il lui dit, bon, bah, écoute... Il parle à l'âme et lui dit, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Pourquoi tu es venu? Il lui dit, moi, ça fait 10 ans que je suis ici. Pourquoi tu es depuis 10 ans là-dedans? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, j'habitais Rome avant, dans une autre vie, j'habitais Rome. Et cet enfant, c'était un des trésoriers de la synagogue. Et j'étais très, très, très pauvre, extrêmement pauvre, j'avais pas un rond, je mangeais difficilement, j'avais rien du tout. Et lui, il n'a pas fait cas de moi, ils m'ont pas donné de quoi manger, ils ont pas subvenu à mes besoins, ils m'ont laissé tomber, ils m'ont pas donné comme il fallait. Et donc je viens maintenant, je vais me venger, je vais le tuer. Alors le Harizal, il lui a dit, non, 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 tu vas rien lui faire, tu vas sortir, je vais te faire sortir. L'autre, il dit, j'accepte de sortir à condition qu'il ne voit pas de femme pendant 3 jours. Alors le Harizal, il ne pouvait pas faire autrement que d'accepter la condition. Il va voir le père et il lui dit, écoute, cette âme-là, elle est très très maligne. Elle va trouver une astuce pour qu'il voie une femme. Donc fais très 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 attention. Tu le gardes calfeutré chez toi. Pas de femme, rien du tout. Pendant 3 jours. À un moment, le monsieur, Yoshua Binoun, il a été obligé de sortir et sont venus la mère et la tante du garçon pour le voir. Donc ils sont venus, elles l'ont vu, la mère a embrassé son fils, tac. À ce moment-là, la Neshama, elle est venue et elle a tué le garçon. Donc l'Arizal, il savait parler à ses âmes, il savait les faire sortir, il savait les faire parler. Je vais vous raconter une histoire parce que le Arizal, lui, il a donné des fruits qui vont jusqu'à notre génération. Il y a des gens qui savent faire ce que le Harizal a appris à ses élèves, ce qu'il a appris à son élève principal qui est Rabbi Haïm Vital. En fait, il y avait un rabbin à Yerushalayim qui s'appelait Rabbi Yehuda Fataya. Rabbi Yehuda Fataya, il habitait à Yerushalayim et c'était un très grand kabbaliste. Il était élève du Ben Ishaï. Et il a écrit des très grands livres, je les ai dans la bibliothèque, qui s'appellent Bethlehem Yehuda, en 4 volumes, sur le Etz Haïm, l'ouvrage principal du Harizal. Et il a écrit aussi un livre sur les âmes qui s'appelle Wahme Saperet, qui est un livre qui fait un peu peur pour ceux qui sont sensibles. Donc, dans ce livre, il raconte un certain nombre de choses, mais moi je ne vais pas raconter ce qu'il y a dans son livre. Je vais raconter quelqu'un que vous connaissez qui le connaissait très bien, qui s'appelle Rabbi Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, qui habitait à Yerushalayim. Et un jour, il y a un monsieur, il est venu le voir, il lui a dit, écoute, ma femme, elle fait des folies. Elle fait des folies, elle va dans la rue, elle fait des bêtises. Elle fait des folies, j'arrive pas à faire, qu'est-ce qui se passe? Donc il a dit, viens, on va aller voir Rabbi Yehuda Fataya. Ils sont allés voir Rabbi Yehuda Fataya. Rabbi Yehuda Fataya, il lui a écrit une kmira. Une kmira, c'est une sorte de talisman, qui lui a dit, tu portes cette kmira et tu vas voir, ça va s'arranger, ce qui te perturbe va se calmer. Une fois, donc elle s'est calmée pendant des années. Elle est allée au mikvé une fois, elle a fait tomber la kmira et elle est redevenue folle. Ils sont retournés voir Rabbi Yehuda Fataya, qui était déjà très vieux. Il était très vieux et il n'avait plus la force. Il a dit, écoutez, dans le tiroir, là, tiroir de gauche, 4e porte, il y a des anciens Kmirot que j'avais écrits. Peut-être que ça va marcher. Peut-être que ça va fonctionner. Alors, ils ont mis la Kmira à la femme et elle s'est calmée. Une autre fois, elle a refait le même système. Elle est retournée au Migvé, elle a perdu sa Kmira. Elle est rentrée chez elle, elle a mis le feu et elle est morte brûlée dans sa maison. Vous voyez? Ce qu'on a appris avant le Harizal, et bien ensuite transmis par le Harizal, amplifié par le Harizal, et jusqu'à nos jours, s'applique. Je ne veux pas qu'on traîne un jour pour la Hiloula de Rabbi Ovadia Yosef, quelque chose d'extraordinaire qui est dans le même ordre d'idée. Mais ce soir, ça fait déjà un petit bout de temps que j'ai commencé, 28 minutes, et je ne suis pas encore arrivé. Donc le Harizal est arrivé à Tzfat pour être metaken Rabbi Haïm Vital. Le Harizal, avant que Rabbi Haïm Vital ne vienne étudier avec lui, le Harizal, il a enseigné à d'autres élèves, en particulier un des plus grands, après Rabbi Haïm Vital, qui s'appelait Rabbi Israël Sarouk. Rabbi Israël Sarouk a été un rave qui ensuite a quitté l'Orient et est allé habiter, est allé faire un peu le tour du monde, en Europe, en Italie, etc. Et c'est lui qui a diffusé la Kabbalah du Harizal qu'il avait reçue lui, qui n'est pas exactement la même que celle qu'a reçue Rabbi Haïm Vital en Europe. Par exemple, il a enseigné Rabbi Moshe Azaria Mipano, qui a écrit de très nombreux livres. Il a enseigné en Pologne, il a enseigné Amsterdam. Il a enseigné Amsterdam, là-bas Amsterdam, je ne me rappelle plus, mais il y a un autre, Charles Shamaïm, je crois que ça s'appelle Charles Shamaïm, ce livre. J'ai oublié le nom de ce rave, qui est un nom portugais. Voilà, donc ça c'est Rabbi Israël Sarouk. Pendant que Rabbi Haïm Vital, lui, il était déjà très grand, c'était un Dayan, il était à Bedin à Damas, et il avait des tas de questions sur le Zohar, mais il ne voulait pas aller voir le Arizal. Il était jeune. Qu'est-ce que je vais aller voir ce rab? Et puis on ne le connaît pas. Qui c'est? Je ne sais pas, moi. Et donc, il refusait d'aller le voir. Il était venu habiter à Tzfat, mais il ne voulait pas trop. Et en rêve, le Arizal lui apparaissait. Il disait, mais pourquoi tu ne viens pas me voir? C'est pour toi. Je suis venu pour toi, pour t'enseigner. Viens. Il a refusé. Jusqu'à un jour, il est allé voir Rabbi Haïm, le Rabbi Haïm Vital est allé voir, il n'arrivait pas à trouver une explication, il n'en pouvait plus. Il a jeûné, il a fait Tikkun HaSheleg, il s'était dans la neige, tout ça, il n'arrivait pas. Alors, il est allé voir le Arizal et il a dit, je vais tenter, qui tente rien à rien. Et il a posé la question. Alors l'autre, il lui a donné première explication, deuxième explication, troisième explication, il n'en pouvait plus là. Et à force d'explication, il a reconnu la force. Il a dit, pourquoi tu n'es pas venu me voir? Moi, je suis venu ici pour toi. Ah, il s'est assis à ses pieds, il a pleuré pour être accepté. Moi, tu l'as dit, je t'accepte parce qu'on m'a envoyé pour toi. Mais au début, Rabbi Haïm Vital, il n'arrivait pas à retenir tout ce qu'il apprenait. Donc, vous voyez, sur les 20 mois, il y a encore une période dans laquelle il ne l'a pas retenu. Donc, il a fallu tout recommencer à zéro. Et donc, le Arizal, il a amené... Il a amené sur le Kinneret, sur le lac de Tibériade. Et là-bas, il y avait une vieille synagogue entre les poteaux. Il a pris un gobelet d'eau, il a donné l'eau à boire, il a dit, voilà, tu vois ça, c'est le Be'er chez Myriam, le puits de Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu. Tu vas boire de cette eau, et de cette eau, tu vas retenir tout ce que tu vas apprendre. C'est pas des contes de fées que je raconte, hein, ce sont des faits réels. Donc, tu vas retenir tout ce que tu as appris. Donc à ce moment-là, le Rabbi Haïm Vital a commencé à retenir et à apprendre tout ce que le Arizal lui a appris, et particulièrement c'était son élève principal. D'ailleurs, quand le Arizal est mort, il a interdit aux autres élèves d'apprendre le Sod, et il a donné l'autorisation uniquement au Rabbi Haïm Vital d'apprendre. Une dernière histoire, c'est un jour il y avait le Arizal avec ses élèves. Et il leur a donné à préparer une achana, comme on peut préparer la Gemara, lui a donné à préparer un mahamar du Zohar. Il a dit, voilà, vous avez jusqu'à demain, préparez, essayez de m'expliquer ce que vous avez compris, c'est pas facile, essayez. Alors, ils étudient, un truc limpide comme de roche. Bon, on n'a rien compris, on recommence. Ils recommencent, limpide comme de roche. Troisième fois, alors ils se cassent la tête, limpide comme de roche, toujours la même explication. Trivial, on dirait. Bon, ils abandonnent. Le lendemain, le rav, il leur dit, bon alors, vous avez appris, oui, et c'était difficile. Non, on ne comprend pas ce que tu nous as dit. C'était vraiment facile. On a tous la même compréhension. C'est très simple, on ne t'a pas compris. Peut-être qu'il y a des mots qui étaient mal écrits, mal transcrits, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas compris. Non, non, le texte est parfait. Dites-moi ce que vous avez compris. Alors, ils disent, et à ce moment-là, il y a un essaim d'oiseaux qui arrivent et qui commencent à croasser. Ils sont stupéfaits. Ils leur disent, vous voyez, ça c'est les âmes des tzadikim qui arrivent, qui sont dans ces oiseaux, qui sont venus voir, écouter ce que vous racontiez, et ils sont en train de se marrer. Ils se moquent de vous. Ils rigolent de votre explication. Alors il leur a dit, moi je vais vous donner l'explication, asseyez-vous. Il leur donne une première explication. Alors peut-être que c'était difficile pour vous, vous n'aviez pas compris parce que ce truc était un peu compliqué. Bon, vous sachez que cette explication elle est totalement vraie, je la répète, et je vous donnais une autre explication. Je vous donnais encore une explication encore plus belle, encore plus profonde, etc. Trois fois de suite, jusqu'à qu'il soit totalement subjugué. Ça, c'est la force du Arizal. Un jour, il y a un monsieur, il est venu le voir, il avait peur. Il a pris son chapeau, il a mis son chapeau sur le front parce qu'on lui avait dit qu'il lisait sur le front. Et alors il a mis son chapeau sur le front comme ça. Et lui a dit, dis-moi, si tu crois que je sais lire sur le front, si tu imagines que je sais lire sur le front, tu crois tout de même pas que c'est un chapeau qui va empêcher de lire sur le front. Donc il savait lire sur le front, il savait lire le shoresh de la neshama, il savait lire l'origine de la neshama des gens, qu'est-ce qu'ils allaient devenir, quels étaient leurs gilgulim, il comprenait le langage des oiseaux, il se comprenait le langage des anges. Alors juste une petite histoire, un petit point là, en ce moment quand il y a des enfants qui décèdent, bar minan, ou bien des choses, des personnes qui décèdent, ah oui alors ça va devenir un ange, etc. Non, sachez que l'être humain il est supérieur aux anges, que dans les mondes supérieurs, alors chacun a son monde, les âmes viennent de plusieurs mondes possibles, et la supériorité est dans un isomonde, pas dans le monde par rapport à l'autre bien sûr, mais sachez que les âmes des êtres humains, elles sont dans ce qu'on appelle Mahsav el-Neshamot, et c'est beaucoup plus intérieur, donc beaucoup plus puissant que le Mahsav des Malachim, des anges. Donc les êtres humains ont une origine de leur âme qui est supérieure à celle des Malachim. Alors, le Harizal, il a laissé un grand élève qui est Rabbi Haïm Vital, et je vous ai dit un élève qui s'appelle Rabbi Israël Sarouk. Rabbi Israël Sarouk a donné une Kabbalah qui est allée en Europe. Tous les livres du Harizal ne se sont pas propagés en Europe tout de suite, se sont propagés doucement, doucement. C'est pour ça que vous trouvez des choses différentes en Europe, ou le Gaon de Vilna, ou les Hasidim, donc pas la même chose que ce qui se passe en Eretz Israël, puisque la Kabbalah c'est Torah Eretz Israël, où l'ensemble des livres du Harizal étaient sur place, et il y a eu sur les livres des derniers, sur les Shmona Sharim, sur Mevo Sharim, Batra de Batra, les derniers livres, qui ont été écrits par Rabbi Haïm Vital, il y a eu un harem, une interdiction formelle de sortir ces livres pendant 100 ans d'Eretz Israël. Donc ce qui explique pourquoi dans un certain nombre de pays, les gens n'ont pas du tout la même appréhension. Mais la Kabbalah véridique, entre guillemets, qui sort dans ligne directe du Harizal, s'est transmise à Yerushalayim, dans les Shivat Bethel, pendant 4 siècles. Jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs yeshivot de Mekoubalim qui existent, qui étudient la Kabbalah, et le Harizal, avant de mourir, a promis qu'il allait revenir pour aller renseigner à ses élèves. Et donc, on dit que le Harizal est revenu au XVIIIe siècle, à peu près, de l'ère vulgaire, dans laquelle il est revenu dans le corps d'un quelqu'un qu'on appelle Rashash, Rabbi Shalom Sha'arabi. Rabbi Shalom Sha'arabi, qui était Rosh Yeshiva à Bethel, et qui a compilé, comme un programme, on compile un programme, lui il a compilé tous les livres et il en a fait Solet Nekia, il en a fait de la farine pure et il a rassemblé toutes les choses qui étaient écrites dans le Harizal pour en faire quelque chose de pur, de compréhensible. Alors c'est hyper complexe, on est en fractal, c'est-à-dire si on a une notion, on la découpe dans la même notion, qui est redécoupée dans la même notion, donc ce que j'appelle fractal. Et ensuite, il a rassemblé l'ensemble pour en faire un sidour qu'on appelle le sidour Arachash, qui n'est pas le sidour du Harizal, puisque le Harizal n'a pas retrouvé de sidour. C'est tous les sidours qu'on appelle, c'est d'après le Harizal. Donc, les mots du sidour du Harizal sont le sidour Castilia, sur lequel sont ajoutés tous les mots que le Harizal dit de corriger. Et le sidour lui-même est ensuite avec des kavanot. Kavanot, c'est quoi? C'est des, on va dire en français, des intentions, mais ça ne veut pas dire grand-chose, qui sont en fait des pensées qui accompagnent, qui sont l'essence de la prière. La prière, elle a des mots, je prie Hachem, etc., je demande, je remercie, je donne grâce, etc. Mais la prière également, elle a un pouvoir de réparer le monde chaque jour. Chaque part de parcelle de monde, pendant les 6000 ans que dure le monde spirituel, la prière a la capacité de réparer ça. Et donc, en fait, il y a des intentions qui expliquent comment ça se répare. Je prends tel élément qui doit être réparé, je le monte, je le répare, je le descends, je le ramène à sa place, etc. Quand dit « je », c'est l'homme participe à ça, mais évidemment, c'est Kadosh Baruch Hu, dans le site, la mécanique qu'il a faite, qui fait ça. Quand je dis « je », c'était juste par... Voilà. Et donc le Rachash a compilé cet ensemble-là. Et donc, par exemple, quand on fait une bénédiction, cette bénédiction dont vous allez faire Baruch Ata Hashem Elokeinu, etc. Le mot Baruch, je vais vous montrer le Baruch, comment ça se traduit dans une bénédiction. Donc le mot Baruch, ça va se traduire comme ça. Voilà. Ça, c'est le mot Baruch. Première page. Et ça, c'est le mot Baruch. Deuxième page. D'accord ? C'est la deuxième page qui montre qu'est-ce que c'est Baruch. Et qu'est-ce qui se passe dans les mondes quand je dis Baruch. Ensuite, qu'est-ce qui se passe dans les mondes quand je vais dire Ata, etc., etc. Tout ça, c'est donc ce qu'on pensait être le Gilgul du Ari HaKadosh, qui s'appelle donc Rabbi Shalom Sha'arabi, le Rachash, qui a fait ça. Donc vous voyez, le Arizal, ceux qui ont le plus étudié le Arizal, c'est les Sephardim d'Eretz Israël, d'Aram Tsuva, c'est-à-dire de Syrie, de Bagdad, d'Afrique du Nord, en particulier le fils du Rachash est allé habiter en Tunisie, et dans le sud du Maroc, toute la famille Abersera, qui avait donc la Kabbalah, qui venait de Damas, et qui avait une étude particulièrement approfondie du Arizal, donc que ce soit Rabbi Yaakov Bersera, que ce soit Sidna Baba Saleh, etc. Voilà. Donc, en quelques minutes, 40 minutes, je vais essayer de vous retracer ce qui me venait à l'esprit de la vie du Arizal. C'est une goutte d'eau dans la mer. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous souhaite Shabbat Shalom. Et à une autre fois.